Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Monde aujourd'hui. Nanit Talani au micro. Voici les grandes lignes de cette session d'information de ce vendredi 9 août 2024. Guinée équatoriale, Joachim Elo Ayeté, le défenseur des droits humains, arrêté pour activité illégale. Procès du M23 en RDC, peine de mort pour 26 accusés, dont 21 en fuite. Décès d'Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF s'est éteint à Paris à la veille de ses 78 ans. Libye, les mouvements des forces du maréchal Haftar ravivent les risques d'une guerre civile. Dans nos dossiers du jour, nous irons en RDC où la propagation du Mpox dans les camps de déplacés autour de Goma fait croître l'inquiétude.
Je demande aux autorités de voir comment elles peuvent envoyer des équipes dans les camps pour commencer à vacciner, en particulier les enfants, afin d'enrayer la maladie.
L'Afrique en ébullition, Zongo, Kélif et Tebogo brillent au JO de Paris 2024. Également, la station Afrique a ses JO à suivre dans un peu plus de 10 minutes. Mais avant tout, le journal. En République démocratique du Congo, au procès de la rébellion du M23, 26 personnes, dont 21 en fuite, ont été condamnées hier à la peine de mort par la justice militaire de Kinshasa. Le point avec Antoine Boulamba.
Les 26 prévenus étaient poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison, ont tous été reconnus coupables sans admission de circonstances atténuantes selon l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le principal accusé en fuite, Corneille Nanga, ancien président de la CENI, avait annoncé en décembre dernier depuis Nairobi la création d'un mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo incluant le M23. La cour a ordonné la confiscation de ses biens au profit de l'État congolais. La liste des prévenus contenait aussi les noms de figures du M23, dont son président Bertrand Bisimwa, son chef militaire Sultani Makenga, ses porte-parole Willy Ngoma et Laurence Kanyuka. Les 5 prévenus présents au procès, inconnus du grand public, ont 5 jours pour faire appel, a indiqué le colonel Robert Efomi, président du tribunal militaire.
Le rédacteur en chef du site tchadinfo.com, principale plate d'information en ligne du pays, a été libéré hier après 24 heures de détention par les services de renseignement, a annoncé le directeur général du média. Notre rédacteur en chef a été libéré en fin d'après-midi après avoir été entendu pendant 24 heures dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité, le tout-puissant service du renseignement au Tchad, a indiqué Mamadou Ditembaï, le directeur général de Tchad Info. Mardi 7 août 2024, Badour Oumar Ali a été convoqué à midi par la police judiciaire. Peu après son arrivée, il a été embarqué par des hommes armés et cagoulés et conduit à la direction générale de l'Agence nationale de sécurité à bord d'un véhicule banalisé, avait détaillé l'Association des médias en ligne du Tchad dans un communiqué. Une arrestation injuste et injustifiée, déplore Mamadou Ditembaï. En Guinée équatoriale, Joachim Elo Ayeté, défenseur connu des droits humains, est détenu depuis une semaine pour des activités liées à son ONG. Le point avec Eric Manirakiza.
Joachim Elo Ayeté, également connu sous le nom de Paysa, a été arrêté jeudi dernier à son domicile de Malabo et est actuellement détenu. Selon son avocat, Aurel Obama Obiang, la gendarmerie accuse Joachim d'avoir sollicité l'aide de l'ambassade de France, bien que son association ne soit pas légalement reconnue. Paysa, coordinateur de l'ONG de défense des droits humains, SOMOS, opère dans la clandestinité car son organisation est jugée illégale, a confié un officier de la gendarmerie à l'AFP sous anonymat. Quelques heures avant son arrestation, Joaquin Elo Ayeto a publié une courte vidéo sur Facebook où il exprimait son épuisement face aux arrestations répétées dont il fait l'objet. En février 2019, il avait été inculpé de tentative d'assassinat contre le président Teodoro Biangwema Mbasogo, avant que les accusations ne soient requalifiées en diffamation et menace. Il a été libéré après un an de détention sans jamais avoir été jugé. la Guinée équatoriale, le petit état d'Afrique centrale, est dirigée depuis plus de 45 ans par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État vivant hors monarque.
En Libye, des mouvements des troupes de Khalifa Haftar contrôlant l'est du pays en direction du sud-ouest contrôlé par le gouvernement rival d'Abdelhamid Beba à Tripoli ravivent le spectre de la guerre civile 4 ans après un cessez-le-feu. Nathalie Barge.
Des instructions ont été données aux unités de l'armée pour être prêtes à repousser toute éventuelle attaque dans le sud-ouest, a indiqué l'état-major des forces du gouvernement d'Union nationale. Hier, le Haut Conseil d'État basé à Tripoli a dit suivre avec grande inquiétude les mobilisations militaires des forces de Haftar ces deux derniers jours. Ces mouvements de troupes sapent tout effort visant à réunifier l'institution militaire et causent l'effondrement du processus politique, a ajouté le HCE dans un communiqué. Selon des médias locaux, l'objectif de cette avancée militaire est la prise de l'aéroport de Ghadames sous contrôle des autorités de Tripoli. Ghadames est à l'intersection des frontières de la Libye avec l'Algérie et la Tunisie. La chaîne de télévision privée Al-Ahrar avait déjà indiqué mercredi que des forces pro-Haftar se dirigeaient vers le sud-ouest. La veille, ces forces dirigées par Saddam Haftar, fils du maréchal Haftar, avaient annoncé par communiqué une opération globale visant à sécuriser les frontières sud et le déploiement de patrouilles pour surveiller la bande frontalière avec les pays voisins. La Libye est bordée par le Soudan, le Tchad, le Niger, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte sur sa partie est contrôlée par les forces de Khalifa Haftar.
L'ancien président de la Confédération africaine de football CAF, le Camerounais Issa Hayatou, est mort hier à la veille de ses 78 ans à Paris en France. Il a dirigé notamment la CAF pendant 29 ans et a assumé les fonctions de président par intérim de la FIFA en 2015. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntab.
Issa Hayatou s'est éteint la veille de son 78e anniversaire dans un hôpital parisien, a annoncé le média public camerounais CRTV. Pour l'ancien gardien international Joseph Antoine Bell, je cite, c'est un amoureux du football qui s'en est allé, fait des citations. Depuis hier soir, les hommages à l'endroit du disparu vont au-delà du monde sportif. L'artiste camerounais Bendeka a remercié Issa Hayatou pour l'œuvre accomplie dans le football. Avant d'entrer en scène à la tête de la CAF en 1988 jusqu'en 2017, année où il est battu à la surprise de tous par le malgache Hamad Hamad, Issa Hayatou a été secrétaire général puis président de la Fédération camerounaise de football. C'est sous sa présidence qu'un pays africain a abrité pour la première fois une Coupe du monde de football en 2010 en Afrique du Sud. Depuis 2017, Issa Hayatou était jusqu'à sa mort à la tête du conseil d'administration de l'Académie nationale de football au Cameroun, une structure chargée de la promotion de football de haut niveau. Yaoundé, Emmanuel Juntab, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États membres de l'ONU ont approuvé hier leur premier traité pour lutter contre la cybercriminalité, un texte immédiatement fustigé par les défenseurs des droits humains et les grandes industries de la tech qui alertent contre un outil de surveillance mondiale. Le nouveau traité, qui pourra entrer en vigueur après avoir été ratifié par 40 États, vise à combattre plus efficacement la cybercriminalité et à renforcer la coopération internationale en la matière, citant notamment les images pédopornographiques ou le blanchiment d'argent. Israël accepte de reprendre le 15 août les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza et d'une libération des otages par le Hamas après une intervention des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar qui ont prévenu les deux belligérants qu'il n'y a plus de temps à perdre ni d'excuses pour de nouveaux atermoiements. C'est ce qu'a annoncé jeudi soir le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Kamala Harris n'envisage pas d'embargo sur les armes destinées à Israël, a rapporté jeudi un proche collaborateur de la candidate démocrate à la présidentielle américaine, une rare déclaration de son équipe de campagne au sujet de son programme pour le Proche-Orient. Elle n'est pas favorable à un embargo sur les armes à destination d'Israël, a signifié Phil Gordon, son conseiller en matière de sécurité nationale. Selon lui, la vice-présidente a été claire, elle veillera toujours à ce qu'Israël soit en mesure de se défendre contre l'Iran et les groupes terroristes soutenus par l'Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Le Burkina Faso suit de très près son athlète Hugues Fabrice Zongo qui s'est offert une place en finale en saut de longueur. En boxe, l'Algérienne Imane Khelif se prépare à écrire une nouvelle page d'histoire dans sa catégorie alors que le Botswanais Nesile Tebogo sur le 200 mètres a décroché l'or, une première africaine dans cette discipline. Pour plus de détails, retrouvons Yacouba Ouedraogo dans le journal des Jeux Olympiques. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Burkina Faso et l'Afrique retiennent leur souffle pour ce qui est de la compétition du saut en longueur. Le Burkinabé, champion du monde en titre et recordman de la discipline en salle, Hugues Fabrice Zongo a assuré sa place en finale en réalisant un bond de 17,16 m. Lors des qualifications, il avait décroché la médaille de bronze lors des JO de Tokyo, la première médaille olympique de son pays. Pour le directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme, Zongo est prêt pour l'or.
L'or l'objectif pour lequel il s'était fixé, et je crois qu'il a travaillé d'arrache-pied, il a eu tout ce qu'il faut pour se préparer au point de vue de la santé, au point de vue de l'accompagnement technique. Bon, même si je sais que c'est toujours un concours, c'est toujours une compétition, tout le monde vient pour gagner et que c'est un ou deux ou trois qui peuvent gagner. Mais je pense que la forme qu'il aspire pour le moment, ça lui permet d'avoir la médaille d'or.
À Tokyo, il était aussi confiant que cette année, mais finalement, il a dû se contenter d'une médaille de bronze. Qu'est-ce qui fait la différence justement cette année pour Hugues Fabrice Zongo?
Tokyo, c'était sa première fois d'être aux Olympiques avec l'espoir d'avoir une médaille. Cette fois-ci, ça fait la deuxième fois. Tous les meilleurs les ont rencontrés, se sont rencontrés plusieurs fois. Tout le monde connaît le niveau de chacun. Il a beaucoup grandi en maturité, il a beaucoup grandi dans sa façon de sauter, il a beaucoup mûri dans tout ce qu'il prépare comme performance cette échéance-là. Donc, ce qui fait que entre cette année et Tokyo en 2021, il y a une très grande différence à tous les points de vue. Mental, au point de vue technique, au point de vue motivation, et parce que quelqu'un qui a été champion du monde en salle, champion du monde en plein air, qu'est-ce qu'il lui manque? Il n'y a que la médaille d'or au niveau olympique.
Missiri Sawadogo, directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme, joint à Paris. Autre athlète attendu, Imane Khelif. L'ambiance promet d'être bouillante à Roland-Garros pour la finale de boxe féminine des moins de 66 kilos. Avec l'Algérienne soutenue à chaque combat par des milliers de fans, la boxeuse de 25 ans s'est retrouvée malgré elle au centre d'une polémique mondiale sur son genre qui lui a valu des attaques violentes mais aussi le soutien inconditionnel de l'Algérie. Elle affronte en finale la Chinoise Yang Liu. Ses nombreux fans se disent confiants.
Avec toute la controverse, etc., on espère vraiment que ça n'a pas trop influencé sur son moral et qu'elle va gagner aujourd'hui.
Je suis là en tant que femme, en tant qu'Algérienne et en tant que défendrice des droits humains.
On sait que c'est une sportive et qu'elle va honorer tout le pays algérien et bien sûr tous les supporters qui sont venus en masse pour la supporter en fait.
Sur les relais 4x100 mètres, les Américains seront comme souvent très durs à prendre avec leurs brochettes de stars. Chez les dames, Shakari Richardson aura notamment une occasion de se consoler de sa médaille d'argent sur 100 mètres en décrochant en équipe sa première médaille d'or olympique. Chez les hommes, le nouveau champion olympique du 100 mètres Noah Lyles sera l'homme à suivre. En football, la dernière médaille olympique française remonte à 1984 lors de Los Angeles. Mais les Bleus du sélectionneur Thierry Henry comptent bien dominer l'Espagne pour alimenter la moisson française en sport collectif. En basketball, les Américaines marchent sur leurs adversaires depuis le début des Jeux. Elles affrontent en demi-finale les Australiennes pour glaner une 60e victoire olympique de rang sur la route d'un 8e titre. Ce match sera aussi marqué par le duel entre deux légendes, même si elles n'ont plus l'influence colossale d'avant. L'Américaine Diana Taurasi, qui vise à 42 ans une 6e médaille d'or, ce qui serait un record en sport collectif, et l'Australienne Lauren Jackson, 43 ans, et 3 fois médaille d'argent au JO. L'autre demi-finale mettra aux prises la France et la Belgique. Grosse sensation hier sur le 200 mètres. Le Botswanais Letsile Tebogo est devenu le premier sprinteur africain sacré champion olympique du 200 mètres, privant Noah Lyles, troisième, de doubler après son titre sur 100 mètres. L'Américain a déclaré par la suite qu'il souffrait du Covid. Tebogo, 21 ans, s'est imposé en 19 secondes 46. C'est un nouveau record d'Afrique devant un autre Américain, Kenny Bednarek, 19-62. Avant Tebogo, le Namibien Frankie Fredericks a été double médaillé olympique du demi-tour des pistes, mais à chaque fois en argent, en 1992 et 1996. En basketball, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, Stephen Curry et consorts sont bien en finale des Jeux, mais on a longtemps cru que leur réputation d'invincibilité n'allait pas survivre au superbe match des Serbes, battu de 4 points, 95 à 91. En finale samedi, la Dream Team américaine va affronter la France de Victor Wembanyama, qui a confirmé sa renaissance en battant l'Allemagne championne du monde en titre 73-69. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce vendredi 9 août.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Restez à l'écoute pour notre segment magazine. Les autorités sanitaires de l'Est de la RDC sonnent l'alerte face à la propagation de l'épidémie Mpox. Le virus est déjà signalé dans des camps de déplacés autour de la ville de Goma, provoquant l'inquiétude des médecins et des déplacés de guerre. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Foura Jacqueline, femme déplacée et mère de 8 enfants, semble préoccupée par l'état de santé de son fils, qui présente des signes de Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe. Son fils a des éruptions cutanées et des maux de tête. Elle révèle que c'est la deuxième fois qu'il contracte la maladie.
On m'a dit que mon fils avait la variole du singe. Nous avons cherché des médicaments et les lui avons donnés, mais ils ne les guérissent pas. Nous sommes même allés au dispensaire et lui avons donné un autre médicament qui a fonctionné, mais la maladie est revenue.
Les déplacés de guerre vivant dans la promiscuité dans les camps des déplacés autour de la ville de Goma sont les plus touchés, comme l'a révélé Moussekou Rateo, un responsable des déplacés du territoire de Nyiragongo, qui a appelé les autorités à prendre des mesures pour stopper la propagation de la maladie.
Dans les camps que je contrôle, on estime à 24 le nombre de personnes déplacées déjà infectées par le virus du Mpox. Je demande aux autorités de voir comment elles peuvent envoyer des équipes dans les camps pour commencer à vacciner, en particulier les enfants, afin d'enrayer la maladie.
À l'hôpital général de Nyiragongo, non loin des camps des personnes déplacées au nord de la ville de Goma, une course contre la montre est engagée pour répandre efficacement la propagation de cette maladie. Des tentes ont déjà été installées par l'hôpital avec les soutiens d'organisations humanitaires pour isoler et traiter les cas confirmés. José Badiambila, médecin directeur de l'hôpital général de Nyiragongo.
Ici, c'est la salle des soins où s'il y a un patient qu'on a déjà vu qu'il faut l'observer, c'est ici où ces patients-là arrivent. Bien sûr, il y a les staffs qui est là 24 heures sur 24 pour prendre en charge ces cas-là des machines. Si c'est beaucoup par jour, on peut aller jusqu'à 7-8. Mais quand on manque, c'est entre 2-3, des choses pareilles.
Le virus Mpox se transmet par contact direct avec le fluide corporel, les lésions cutanées ou les gouttelettes respiratoires des personnes infectées. Des mesures d'hygiène sont recommandées, en particulier dans les camps des personnes déplacées où de nombreux cas sont signalés. Mais les personnes déplacées estiment que ces mesures sont difficiles à respecter en raison du manque d'eau. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Ici aux États-Unis, maintenant que les candidats démocrates et républicains à la présidence ont choisi leur colistier, la question est de savoir si ces choix contribueront à augmenter les chances de gagner les élections de novembre. Véronica Balderas Iglesias de la VOA examine la pertinence des candidats à la vice-présidence et ce que Tim Walz et Jedi Vance apportent. Son reportage est relaté par John Lindon.
C'est avec une grande confiance dans sa décision que la vice-présidente Kamala Harris a présenté le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme son colistier mardi en Pennsylvanie. Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle.
Dans son état, il a été un chef d'entreprise moderne et avec son expérience, je vous le dis, Tim Walz sera prêt dès le premier jour.
Le candidat républicain Donald Trump salue également le bilan politique de son colistier, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance. Mais l'ancien président a récemment minimisé l'importance du choix du vice-président.
Je pense que c'est bien documenté historiquement. Le vice-président, en termes d'élection, n'a aucun impact. Je vais dire pratiquement aucun impact. Tout dépend du choix du président.
Les spécialistes estiment que les vice-présidents travaillent dans l'ombre du président des États-Unis. Leur rôle est souvent mal compris et peu apprécié. Ils sont pourtant les premiers dans la ligne de succession lorsqu'un président ne peut plus servir et sont essentiels pour faire avancer l'agenda politique de leur parti. Joël Goldstein, chercheur de la vice-présidence via Skype.
Their role is really to act as a subordinate.
Le rôle est vraiment d'agir en tant que subordonné, d'aider à promouvoir et à poursuivre les politiques du président et d'accroître la capacité du président à fonctionner en tant que leader national et international.
Dans une certaine mesure, les choix des vice-présidents peuvent donner un coup de pouce aux campagnes présidentielles, estime Joël Goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore.
Le choix d'Al Gore par Bill Clinton en 1992 était un très bon choix. La combinaison de ces deux jeunes baby-boomers centristes du Sud a vraiment envoyé un message de changement générationnel.
L'analyste a qualifié de mauvais choix la décision du sénateur républicain John McCain de choisir la gouverneure Sarah Palin comme colistière en 2008. Encore une fois, Joël Goldstein.
Elle est vraiment devenue un personnage qui a été parodié pendant la campagne et je pense qu'elle a fini par nuire au ticket McCain. Ce n'est pas la raison pour laquelle le sénateur McCain a perdu.
Pour ce cycle électoral, la campagne de Kamala Harris mise sur les références de Tim Walz et sur son engagement en faveur d'une économie pro-familiale. Elizabeth Clements est sociologue à l'Université de Chicago. Elle s'est entretenue avec VOA via Skype.
Une version pro-famille qui ne concerne pas le contrôle de la reproduction, mais le soutien économique des familles, qu'il s'agisse de l'éducation, des soins de santé, du logement ou du développement de l'emploi.
Selon l'analyste Peter Lodge, J.D. Vance contribue à faire avancer le discours républicain. Peter Lodge, directeur de l'École des médias et des affaires publiques de l'Université George Washington, il répond via Zoom.
L'histoire qu'il raconte, c'est qu'il y avait autrefois une Amérique où l'on pouvait réussir si l'on travaillait dur, si l'on respectait les règles, si l'on était une famille de classe moyenne qui travaillait dur, et que cette Amérique a disparu et que si vous votez pour eux, cette Amérique reviendra.
Même si les candidats à la vice-présidence font rarement la différence lors des élections, les analystes affirment que les électeurs américains seront attentifs à la manière dont les vice-présidents actuels vont écouter les électeurs et canaliser leurs préoccupations.
Les Jeux olympiques à Paris, c'est aussi l'occasion de rassembler et de célébrer toutes les cultures africaines. À la Station Afrique, installée sur l'île Saint-Denis, plus d'une vingtaine de pays du continent africain sont représentés. Non loin du village olympique, des milliers de personnes font le déplacement dans cette fan zone pour tenter d'apercevoir les athlètes africains, mais aussi profiter des concerts, des stands et des animations sportives et culturelles. Le reportage de notre correspondante à Paris est l'âme le cœur.
Depuis deux semaines, le Club Afrique attire des milliers de personnes. De quoi donner le sourire aux dizaines d'artisans.
L'échange culturel est indéniable par rapport à ces jeux. Parce que j'ai remarqué, dans le Kizé de Saint-Denis, on a rencontré des athlètes qui sont venus à notre grande surprise. Dans leur détente, ils ont vu « waouh, waouh !» Des Américains qui sont venus « waouh, waouh !» Des Hollandais. C'est ça la richesse aussi. Dans les moments où il n'y a pas de compétition, mais nous sommes là aussi pour rayonner notre nation et rayonner le monde par nos savoir-faire. C'est ça la case africaine, c'est ça le village africain.
L'olympisme, c'est pas seulement le sport, c'est aussi la culture et l'éducation. Donc nous, on s'est dit de prendre notre responsabilité aussi et de venir vendre la destination Guinée. Vous avez dû le remarquer, nous avons des produits artisanaux qui sont là, mais au-delà de ça, nous vendons la destination Guinée parce que notre pays, il est beau. C'est un paradis, donc il faut le visiter. Donc c'était une opportunité de venir exposer et faire en sorte que les gens découvrent davantage notre cher pays.
Le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie. À la Station Afrique, chaque journée est consacrée à un pays en particulier du continent. Ce soir-là, la culture congolaise est à l'honneur.
Voilà, c'est un projet qu'on travaille depuis deux ans avec la ville et monsieur le maire. Et vraiment de voir tous les habitants, avec les amis, les voisins, venir célébrer voilà, toutes les cultures africaines ensemble, c'est juste merveilleux. Voilà, le vivre ensemble et le partage des cultures.
Un brassage culturel qui enflamme tous les soirs la scène de la Station Afrique où de nombreux artistes font leur show. Youssou N'Dour, Oxmo Puccino, Magic System, Black M ou encore Franglish. Et les visiteurs sont forcément ravis.
Si moi on m'avait dit qu'à l'île Saint-Denis j'allais avoir 3000 personnes qui viendraient danser le soir, j'aurais signé directement, c'est exceptionnel. Du coup je viens profiter de l'ambiance, tout le monde est heureux, tout le monde est content de venir se rassembler, c'est génial.
C'est à vivre une fois dans sa vie. Franchement, c'est un coup, je suis pas branché sport, mais à vivre au moins une fois dans sa vie. La vérité. Écoutez le son.
Je connaissais pas, c'est la première fois que je viens et franchement, ça serait bien qu'il y ait ça plus souvent.
Ça me donne envie de voyager et de voir les différentes cultures africaines dans les pays.
Un voyage à la découverte de toute la richesse du patrimoine culturel africain, proposé jusqu'à dimanche prochain, dernier jour des Jeux Olympiques. Et l'âme le cœur pour VOA Afrique, Paris.
Dans l'Amérique et vous de ce vendredi, le duel des colistiers dans la course à la Maison Blanche. La vice-présidente démocrate Kamala Harris a choisi Tim Walz pour la seconder dans la campagne. J.D. Vance est lui le bras droit du candidat républicain Donald Trump. Le colistier peut-il élargir la base électorale du prétendant principal? Quel rôle va jouer le prochain vice-président des États-Unis? Serait-il susceptible d'influer sur la politique étrangère, dont celle relative à l'Afrique? Rendez-vous avec moi, Jacques Aristide et mes invités sur VOA Afrique, voafrique.com, de même que sur nos radios partenaires ce vendredi 9 août à partir de 19h05 à TU.
Passez des people.
Monster Hunter, beat ho, beat bo, any rat. He a freak, though, man, damn, call like Elvis Lambs. Tell him, breathe, bro, Nella, to the cross, he walk around like Tito. What's up with these people? Trying to speak Compton, the industry can hate me. Come on, ain't they mama, how many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show. Certified boogie man, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baca got a weird case, why is he around? Certified lover boy, certified pedophiles. Wow.
C'est la fin du monde aujourd'hui au micro de Nanit Talani. Michel Joseph à la mise en onde et Kelvin Fowler à la technique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet voaafrique.com et à nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. L'équipe de VO Afrique par ma voix vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.